VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 10 décembre 2021, en direct de Washington, Jean-Roger Billon. On commence par les titres.
Au Burkina Faso, au moins 13 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors d'une attaque dans le nord.
République démocratique du Congo, l'Union européenne maintient ses sanctions contre 10 cadres du régime Kabila.
La Cour pénale internationale renvoie en procès le rebelle centrafricain Mahamat Saïd Abdelkhani. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Le président du Niger plaide pour le climat à l'ONU. Mohamed Bazoum réclame une résolution reconnaissant le lien entre changement climatique et sécurité.
Le président américain Joe Biden estime que la démocratie a besoin de champions. Un vœu exprimé à l'ouverture jeudi du sommet virtuel sur la démocratie rassemblant une centaine de pays. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, un témoin au procès des assassins présumés de Thomas Sankara a chargé le général Gilbert Diendéré, l'adjudant-chef Abdrahaman Zetiyenga. Son ancien collaborateur l'a accusé d'avoir joué un rôle clé dans l'assassinat le 15 octobre 1987 de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. Selon M. Zetiyenga, Gilbert Diendéré avait reçu une note des renseignements selon laquelle Thomas Sankara avait décidé d'arrêter Blaise Compaoré. Au vu de cette information et pour éviter le pire, le général Diendéré a décidé d'arrêter le président Sankara et le garder en résidence surveillée, a expliqué le témoin qui assure avoir participé à une réunion sur le sujet avec l'accusé.
Appelé à la barre, le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés dans ce procès, a nié en bloc, expliquant notamment n'avoir jamais reçu de note des renseignements. Son avocat, Maître Olivier Yelkouni, a de son côté mis en cause un témoignage douteux de l'adjudant-chef Zetenga. Ouvert le 11 octobre, le procès doit se poursuivre encore pendant plusieurs semaines.
Burkina Faso toujours, au moins 13 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de l'armée ont été tués hier lors d'une attaque dans le nord du pays. Un nouveau gouvernement est attendu dans les prochains jours. Le point avec Lionel Gahima.
Une équipe de volontaires pour la défense de la patrie est tombée dans une embuscade à Yaou, une localité située sur l'axe Titao-Waiguya, a expliqué une source sécuritaire qui fait état d'une douzaine d'éléments tombés parmi les VDP et de quelques blessés. Un blessé a succombé par la suite, portant le bilan à 13 morts. Le premier ministre Christophe Dabiré a démissionné mercredi soir, entraînant celle de l'ensemble du gouvernement. En attendant, les anciens ministres expédient les affaires courantes. Depuis plusieurs semaines, des Burkinabés manifestent pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste. Selon un responsable de la société civile, des actions fortes à un gouvernement de combat est attendue sur la question sécuritaire. La formation de cette nouvelle équipe sera connue dans les prochains jours.
Les forces armées du Burkina Faso et du Niger ont annoncé avoir tué une centaine de terroristes au cours d'une opération commune effectuée du 25 novembre au 9 décembre à la frontière entre ces deux pays, confrontés à des attaques djihadistes récurrentes.
L'Union européenne a décidé jeudi de proroger d'un an les sanctions prises en 2016 contre 10 anciens cadres du régime Kabila, précisant qu'elle pourrait en envisager d'autres si nécessaire, selon un communiqué du Conseil de l'Union européenne. Le point avec Rosine Monezer.
Les 10 personnes concernées, anciens dignitaires de l'armée, de la police, de l'administration ou du gouvernement, dont les noms ne sont pas mentionnés dans le communiqué, font l'objet d'un gel des avoirs et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne estime que les mesures existantes restent valables compte tenu de la situation politique actuelle et qu'elles sont utiles pour lutter contre l'impunité et prévenir de nouvelles violations des droits de l'homme par des acteurs étatiques et non étatiques. Bruxelles se dit préoccupée en particulier par de récents rapports des Nations Unies qui mettent en évidence, dans l'espace public et sur les réseaux sociaux, une augmentation des discours et messages de haine contre des groupes ethniques ou des personnalités publiques. Le Conseil de l'Union européenne dit qu'il va réexaminer les mesures restrictives en fonction de l'évolution de la situation et pourrait en envisager d'autres si nécessaire.
La Cour pénale internationale a déclaré jeudi avoir renvoyé en procès un commandant rebelle centrafricain. Mahamat Saïd Abdelkani est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mouhamadou Mfa nous en dit plus.
La Cour a partiellement confirmé les charges portées par le procureur à son encontre et l'a renvoyé en procès devant une chambre de première instance d'après un communiqué de la CPI. Les juges ont conclu qu'il existe des preuves suffisantes pour établir des motifs substantiels de croire que M. Saïd était un membre de haut rang de la coalition Seleka, selon ce communiqué. Il est accusé d'être responsable de torture, de persécution et de traitement cruel. Les juges ont rejeté d'autres chefs d'accusation contre M. Saïd en lien avec des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre septembre et novembre 2013. Mahamat Saïd Abdelkani avait été remis en janvier par Bangui à la CPI sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par l'un des juges de la juridiction en 2019.
Plusieurs milliers de personnes ont fui depuis mercredi l'extrême nord du Cameroun en proie à des violences intercommunautaires qui ont fait au moins 4 morts et ont trouvé refuge au Tchad voisin, a indiqué jeudi la Croix-Rouge. Ces milliers de personnes fuyant les violences ont traversé le fleuve Chari pour trouver refuge au Tchad, près de la capitale N'Djamena. Il y a au moins 3000 réfugiés. Ce chiffre est susceptible d'évoluer, a déclaré Kala Ahmad Senoussi, président de la Croix-Rouge au Tchad.
Le président du Niger, Mohamed Bazoum, plaide en faveur d'une résolution établissant un lien formel entre le réchauffement climatique et la sécurité dans le monde, une proposition rejetée par la Russie, la Chine et l'Inde. Il a fait cette déclaration hier lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdourahman Dia.
Pour Mohamed Bazoum, il est grand temps pour le Conseil, dans le cadre de son mandat de prévention, de prendre en compte les risques sécuritaires liés au changement climatique en tant qu'élément supplémentaire de l'architecture de paix et de sécurité. Niamey espère mettre au vote prochainement une résolution rédigée avec l'Irlande visant à intégrer les risques de sécurité liés au climat en tant qu'élément central dans les stratégies globales de prévention des conflits des Nations Unies. Selon des diplomates, la Russie menace cependant depuis plusieurs jours d'utiliser son veto contre ce projet de texte. Pour nous, le lien direct entre le terrorisme et le changement climatique est loin d'être évident, a affirmé l'ambassadeur de la Russie à l'ONU, rejoint sur cette position par l'Inde. L'approche du Niger a reçu le soutien des États-Unis et de la France, qui parlent d'un lien évident alors que l'accès à l'eau, la pénurie alimentaire et l'insécurité climatique sont des facteurs qui permettent aux groupes armés de prospérer en profitant de la vulnérabilité des populations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a estimé que la démocratie avait besoin de champions, y compris aux États-Unis, en ouvrant hier un sommet virtuel rassemblant une centaine de pays dont le choix des invités a provoqué bien des débats. Les détails avec John Lyndon.
La démocratie dans le monde a besoin des champions pour faire face à des défis importants et inquiétants, a déclaré hier Joe Biden à l'ouverture de ce forum virtuel sur la démocratie. Il a reconnu que les États-Unis eux-mêmes devaient combattre sans relâche pour être à la hauteur de leurs idéaux démocratiques et convenu qu'aucun des États invités au sommet n'était parfait. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a fait des promesses pour consolider la démocratie dans son pays. Ce forum virtuel de 2 jours se termine aujourd'hui. Plusieurs pays non invités ont exprimé leur colère, comme la Chine et la Russie, qui ont dénoncé une réunion antidémocratique et porteuse de divisions.
Le Sénat américain a approuvé jeudi le premier de 2 projets de loi nécessaires pour le relèvement du plafond de la dette fédérale et éviter un éventuel défaut de paiement. Le Sénat américain a adopté le texte par 59 voix contre 35. 10 républicains ont soutenu le projet de loi. Le Congrès devrait se prononcer sur la deuxième mesure nécessaire pour parvenir à un relèvement du plafond de la dette d'ici mardi prochain.
La Maison-Blanche a prévenu jeudi que les États-Unis prendraient des mesures supplémentaires destinées à bloquer les ressources financières de l'Iran en cas d'échec des discussions sur le programme nucléaire iranien, le département d'État américain indiquant que le sérieux de Téhéran restait à déterminer. Au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue israélien qui était en visite à Washington, Lloyd Austin a rappelé que le président américain Joe Biden avait clairement fait savoir que d'autres options serait étudiée par les États-Unis en cas d'échec de la voie actuelle.
53 migrants sont morts jeudi dans un accident de la route dans le sud-est du Mexique, a indiqué le parquet, revoyant à la hausse un premier bilan de 49 morts. Selon la protection civile de l'État du Chiapas, il s'agit des ressortissants du Guatemala voisin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
À présent, la minute éco avec Rosine Monizero.
Le ministre sud-africain de l'énergie a défendu jeudi le projet d'exploration sismique de gisements de pétrole et de gaz du géant Shell près des côtes, accusant ses détracteurs de faire barrage aux investissements économiques dont le pays a besoin. Je ne peux m'empêcher de me poser la question suivante. Ces objections visent-elles à garantir le maintien du statu quo en Afrique et en Afrique du Sud en particulier, a-t-il déclaré, énumérant la pauvreté énergétique, le chômage, la stagnation des économies et la dette qui accable son pays. Joe Biden s'est efforcé jeudi de minimiser les mauvais chiffres de l'inflation pour le mois de novembre qui seront publiés vendredi. Les informations publiées demain sur l'énergie en novembre ne reflètent pas la réalité d'aujourd'hui et ne reflètent pas les baisses de prix attendues dans les semaines et les mois à venir, a-t-il assuré. En octobre, l'inflation a accéléré, atteignant un niveau record en 30 ans à cause des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement qui ont eu l'effet sur les prix de l'énergie. Le bras de fer au niveau européen. Le Royaume-Uni a rejeté hier l'échéance fixée à vendredi par la Commission européenne pour régler le litige des licences de pêche post-Brexit avec la France. Paris accuse Londres de mauvaise foi et promet d'aller au contentieux. « Nous n'avons jamais fixé de date butoir », a déclaré jeudi soir le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson. « Ils en ont fixé une, mais ce n'est pas celle sur laquelle nous travaillons. »
Place maintenant à la page des sports avec Bagassi Koura.
Oui, bonjour à tous. Quelques résultats de l'Europa League. Tombeur de Leicester, 3-2 jeudi, Naples a décroché son ticket pour les 16e de finale au terme d'une dernière journée qui a vu l'Étoile Rouge de Belgrade assurer sa première place. Les Serbes, tout comme le Spartak Moscou, vainqueur plus tôt du Lega Varsovie dans le groupe C, 1-0, sont les derniers qualifiés directs pour les 8e. Naples, les Glasgow Rangers, la Real Sociedad, Braga et le Dynamo Zagreb rejoignent les autres 2e du groupe pour des barrages contre des équipes reversées de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, justement, Villarreal s'est qualifié pour les 8e de finale hier après sa victoire 3-2 à Bergame contre l'Atalanta qui est reversée en Ligue Europa. Le sous-marin jaune qui menait 3-0 après un doublé de l'international néerlandais Arnaud Danjuma et un but du français Étienne Capoué à la 42e minute s'est fait peur en fin de match en encaissant deux buts. D'abord de Ruslan Malinovski à la 71e, puis d'Ivan Zapata à la 80e. Et sur le continent, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal a désigné le gardien de but de l'équipe nationale, Edouard Mendy, meilleur sportif de l'année. Selon le journal Le Quotidien, l'attaquant de Génération Foot, Jean-Barthélemy Diouf, réalise le doublé en devenant meilleur joueur local. L'équipe nationale de beach soccer et le lutteur Doudou Sané ont aussi été honorés selon le quotidien. Ces choix ont été faits à l'issue d'un vote de 40 organes. Des nouvelles de Victor Osimhen, victime d'un choc violent au visage et récemment opéré. Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, dit garder espoir, un petit espoir de le voir participer à la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année. Son club de Naples a annoncé le 23 novembre une indisponibilité de 3 mois. Le Super Eagles, blessé 2 jours plus tôt au niveau de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche dans un choc aérien durant un match contre l'Inter Milan. L'attaquant de bientôt 23 ans a repris hier la course à l'entraînement un peu plus de 2 semaines après avoir été opéré de multiples fractures au visage, selon le Napoli. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin à contre-courant d'une vague de boycott. C'est ce qu'a annoncé jeudi son porte-parole. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni avaient annoncé en début de semaine un boycott diplomatique accusant notamment Pékin de violation des droits humains contre la minorité chinoise musulmane des Ouïghours.
Page de sport signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burkina Faso attend un gouvernement de combat face aux violences djihadistes poussées vers la sortie par le chef de l'État Roch Marc-Christian Kabore. Le premier ministre Christophe Dabiré a démissionné mercredi, entraînant automatiquement le départ de l'ensemble du gouvernement alors que le pays traverse une crise sécuritaire difficile. Un nouveau cabinet est attendu dans les jours à venir. Les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant Lamine Traoré.
Le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou au journal de 20h de la télévision nationale ce mercredi soir annonce que le président du Faso par décret et suite à la démission du premier ministre a mis fin aux fonctions de ce dernier et des membres de son gouvernement. À Ouagadougou, c'est sans surprise quand on sait que Roch Kabore avait dans une adresse au Burkinabé annoncé un gouvernement resserré. Les populations attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement qui sera formé.
Ce qui pourrait plus rassurer les Burkinabés à mon sens, c'est qu'il y ait plus de communication avec la population. Voilà, parfois quand il n'y a pas de communication, on voit que chacun prend des décisions. Voilà, s'il n'y a plus de communication, ça va vraiment aider le Burkina. Et surtout, le gouvernement qui va venir en place, mes attentes, c'est plus des objectifs à court terme. Voilà, qu'ils puissent regarder certaines personnes, qu'ils vont mettre à certains postes, qu'ils puissent nous dire quelle est l'évolution de ce qu'ils font.
Le nouveau gouvernement est resserré. C'est pas forcément ça qui est important pour les Burkinabés. C'est de communiquer davantage sur le terrain ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je veux savoir de l'Est au Nord, les positions de l'armée, c'est comment? Est-ce que l'armée est, par exemple, à Nassoumbou, à Koutoukou?
La société civile estime qu'il faut aller vite, car l'heure est grave.
L'heure est grave. Les choses urgent ici au Burkina Faso.
Abraham Badolo est le président de l'ADP, l'Alliance pour la Défense de la Patrie, une organisation de la société civile.
Nous espérons maintenant que le président du Faso va aller très vite en nommant un premier ministre qui va former rapidement un gouvernement pour que nous puissions vraiment aller très vite. Vous avez vu que les terroristes continuent de prendre du terrain. Le peuple n'a plus la patience, cette patience vraiment d'attendre assez longtemps.
Les analystes et autres observateurs pensent que le président a une lourde tâche dans la formation de ce nouveau gouvernement dit resserré. Pas rien est analyste politique.
Il a annoncé un gouvernement resserré. On peut s'attendre à ce que le nombre diminue, à ce que les portefeuilles puissent diminuer également. Maintenant, est-ce que le président du Faso aura la latitude de faire comme il entend, comme il veut, quand on sait que même dans son propre camp, il y a des enjeux politiques. Il y a des enjeux politiques au niveau national avec l'opposition qui conteste beaucoup. Donc, on attend de voir ce que cela peut donner. Mais nous voulons dire que c'est une manière pour le chef de l'État de dire à la population qu'il est engagé à faire des réformes pour qu'on puisse venir à bout donc de l'insécurité qui est grandissante et vraiment qui ne permet plus de dormir au Burkina Faso.
Depuis l'attaque d'Inata qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et 4 civils le dimanche 14 novembre, le président Kabore, face à la pression populaire, a opéré de nombreux changements au sein du commandement de l'armée. Il a demandé un rapport à l'armée pour situer les responsabilités. Le rapport produit a été rejeté par le président, selon le quotidien national. Un autre rapport est attendu le 13 décembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
On fait maintenant une escale au Congo-Brazzaville. Les ONG profitent de la Journée internationale des droits pour appeler les autorités à améliorer les conditions de détention des prisonniers. Ces derniers mois, plusieurs rapports de ces organisations mettent en cause les mauvaises pratiques de la police qui provoquent parfois des décès dans les commissariats. Mais le procureur de la République prend la défense de la police en dénonçant toute critique à son encontre. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Il ressort de plusieurs rapports des ONG locales travaillant dans le milieu carcéral que les conditions de détention dans les maisons d'arrêt ou dans les commissariats de police sont inhumaines. Ces rapports sont étayés par des témoignages d'anciens prisonniers. Cet ancien détenu a passé 6 mois à la maison d'arrêt de Brazzaville.
Il y a tout des salaires, même si vous avez les ventileux, il y a tout des salaires. Il y a sur, de manière générale, pour les détenus, c'est que vraiment, ils sont très mal nourris journalièrement. Comment on peut expliquer que quelqu'un, un détenu, peut manger un petit morceau de poulet, un bol de riz, vraiment c'est déplorable.
Un autre détenu pendant 48 heures au commissariat de la coupole à Poto-Poto, raconte la galère qu'il a laissée derrière lui.
Il y a deux cellules. La cellule où j'étais, les conditions étaient quand même acceptables, bien que ce n'est pas ça. Mais de l'autre côté, il y a des citoyens qui sont enfermés, qui ne voient la lumière qu'autour de midi. En dehors de ça, ils n'ont pas accès à la lumière pour leur donner de la nourriture. Ils tâtonnent pour avoir de quoi manger. Il y a une forme de brigandisme installée par la police, parce que quand vous arrivez, il y a un général de prison avec ses éléments qui essaient de vous toucher, tout ça. Bon, pour moi, quand ils ont tenté, j'ai essayé de résister. Après, un policier est arrivé qui a essayé un peu de calmer le jeu.
Les organisations des droits de l'homme ne cessent d'attirer l'attention des autorités pour améliorer la situation des détenus. Georges Nguila, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, estime que les juges ont une grande responsabilité dans cette affaire.
Aujourd'hui, la maison d'arrêt de Brazzaville, par exemple, est pleine et que les juges d'instruction, les procureurs, envoient ces gens-là dans les commissariats, au point où les commissariats sont aujourd'hui bondés. Et on a l'impression que ce sont les commissaires qui le font. Mais c'est tout le monde qui participe à cela. Quand les procédures sont lentes, bon, parfois ce sont les magistrats qui les placent là-bas, qui les oublient là-bas.
Pour Trésor Ndila Kende, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement CAD, les autorités bouchent leurs oreilles face à leurs appels répétitifs.
Ça bouge très timidement. Nous avons l'impression d'être pas écoutés ou très peu écoutés. Ce sont pas des propositions qui manquent, mais le sentiment qui se dégage, c'est que la situation, au lieu de s'améliorer, se dégrade davantage.
Et le procureur de la République, André Okunga-Kala, ne va pas par quatre chemins. La police était mal nécessaire dans le pays.
La police, c'est comme la porte de votre maison. Mais c'est un mal nécessaire, la police. Vous aurez beau critiquer la police, mais vous perdez votre temps. Parce que vous aurez toujours besoin de la police. Mais qui vous sécurise? Mais c'est la même police que vous critiquez. Pour moi, je pense que vous perdez votre temps. Il y a des problèmes réels, mais il ne faut pas déborder. Ne débordez pas.
À l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée internationale des droits de l'homme, l'OCDH appelle le président de la République à libérer certains prisonniers pour faire de la place dans les lieux de détention. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
De l'autre côté du fleuve, la RDC, la République démocratique du Congo, à l'occasion de la Journée mondiale contre la corruption, les commerçantes de différents secteurs du formel et de l'informel organisent une sensibilisation dans 9 marchés de Kinshasa dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les vendeuses sur les marchés subissent des intimidations et parfois du chantage sexuel pour vendre et acheter leurs produits à bas prix. Nathalie Barge a joint Espérance Kilembe, chargée de cette sensibilisation au marché de Delvaux à Kinshasa. Madame Kilembe produit et vend des jus de fruits locaux au sein de la coopérative de femmes Coletco.
Il y a vraiment d'intimidation, des corruptions, même des harcèlements sexuels en tout cas. Par exemple, si vous vendez, vous voulez acheter par exemple ceux qui vendent la fruiterie, hein, on appelle ici Tombola. Vous voulez donner votre argent, exemple, on va à 50 000 francs, ici 50 000, à 150 000 francs, 120 dollars. Vous allez là-bas pour acheter, vous trouvez les hommes qui sont là, qui vont vouloir acheter. Soit vous couchez avec eux pour qu'ils vous donnent la marchandise. Surtout si c'est rare, hein. Par exemple, les habits des enfants, c'est devenu très rare, recherché. Quand les femmes y vont pour acheter, les gens qui disent, avant que je te donne, tu sors avec moi. Donc les intimidations comme ça, on vend les dresses par exemple à 25 000 francs congolais. Les gens qui viennent, les hommes, qui disent, je vous achète à 35 000 francs. Donc les femmes sont aussi obligées de sortir 35 000 francs, alors qu'ils avaient prévu 50 000 francs pour deux sacs. Là, ils n'auront qu'un sac.
Alors parlez-nous justement de cette sensibilisation sur les violences faites aux femmes.
Nous sensibilisons les femmes, nous leur disons qu'ils ne doivent pas se taire. Tout ce qu'ils rencontrent, ils doivent venir. Par exemple, chez nous, nous allons installer un bureau là, ici, à Delvaux là. Ils viennent avec leur plaidoirie. Nous allons faire les mémos et donner à qui les droits, à notre gouvernement, pour qu'on puisse un peu régulariser ces choses-là. Par exemple, pour acheter quelque chose, il faut les intermédiaires. vous voulez acheter directement, vous devez passer, payer ceci, payer cela, pour faire sortir des cendres, par exemple, un sac dans les camions. On va vous dire, même si vous venez avec un porteur que vous-même vous avez amené, non, on va refuser celui-là, il faut que celui du camion puisse sortir pour faire des cendres pour vous, donc vous nous payez encore l'argent. Tout ça, ça fait un problème. C'est pourquoi on s'assimile des femmes pour leur dire qu'ils sont comme des hommes, qu'ils ne puissent pas se sentir faibles. Dans l'entrepreneuriat, nous sommes tous égaux. Donc nous avons des lois que nous devons suivre. Et puis nous demandons normalement qu'on puisse vulgariser toutes ces lois-là, c'est ce que nous devons faire dans l'avenir pour que ces femmes connaissent toutes ces lois-là et qu'on puisse les mettre en pratique, qu'ils puissent savoir faire, qu'ils puissent déclarer, qu'ils puissent dénoncer les harcèlements sexuels-là.
C'était Espérance Kilembe de la coopérative des femmes commerçantes à Kinshasa, en RDC. Le sommet virtuel sur la démocratie organisé par la Maison-Blanche s'achève ce vendredi. Le sommet a débuté jeudi et accueille plus de 100 dirigeants mondiaux, militants de la société civile et journalistes. La Chine et la Russie sont les grands absents de cette rencontre. Un reportage de Saint-Dicenne, récit Blanche Sanon. Et donc, dans quelques instants, le sommet sur la démocratie, nous y reviendrons selon ce que nous fait savoir notre producteur. Nous avons quelques petites difficultés pour avoir ce reportage et donc nous revenons sur quelques nouvelles que nous avons données aujourd'hui. Le Sénat américain a approuvé, je le disais, jeudi, le premier des deux projets de loi nécessaires pour le relèvement du plafond de la dette fédérale et éviter un éventuel défaut de paiement. Le Sénat américain a adopté le texte par 59 voix contre 35. 10 républicains ont soutenu le projet de loi. Le Congrès devrait se prononcer sur la deuxième mesure nécessaire pour parvenir à un relèvement du plafond de la dette d'ici mardi prochain. Et le président américain Joe Biden a estimé que la démocratie avait besoin de champions, y compris aux États-Unis, en ouvrant hier ce sommet, ce fameux sommet virtuel, rassemblant une centaine de pays, dont les États-Unis elles-mêmes. Et puis, le Burkina Faso, vous le savez, attend un gouvernement de combat face aux violences djihadistes, poussé vers la sortie par le chef de l'État Roch Marc Christian Kabore. Le premier ministre Christophe Dabiré a démissionné mercredi, entraînant automatiquement, vous le savez, le départ de l'ensemble du gouvernement, alors que le pays traverse une crise sécuritaire difficile. Un nouveau cabinet est donc attendu dans les jours à venir. Et la Haute Cour de Londres rend aujourd'hui, ce matin, sa décision au sujet de l'appel des États-Unis contre le refus d'extrader le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, que Washington veut juger pour une fuite massive de documents. En première instance, début janvier, la justice britannique a refusé d'extrader l'Australien de 50 ans, invoquant un risque de suicide s'il était remis aux États-Unis. On revient sur le sommet sur la démocratie aux États-Unis avec Blanche Sanon.
La rencontre virtuelle sur la démocratie intervient dans un contexte de défis croissants et de nouvelles menaces selon le président américain Joe Biden. L'attaque du Congrès américain en janvier 2020 par des partisans de l'ex-président Donald Trump fait partie de ce qui a motivé le président américain, selon le sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Yusra Zeya.
We approach this week with both humility and confidence.
Nous abordons cette semaine avec humilité et confiance. Humilité en ce sens que nous voulons écouter et apprendre sans crainte de nos lacunes, confiance en notre effort constant pour une union plus parfaite et notre certitude qu'en travaillant ensemble, les démocraties peuvent et offriront mieux aux citoyens du monde, malgré les réticences ou l'illusion que les autocrates et les régimes autoritaires essaient de vendre.
L'attaque du 6 janvier a laissé ses marques sur la scène mondiale, selon Brian Katulis du Middle East Institute.
J'entends davantage parler des pays amis, d'adversaires et de concurrents où beaucoup d'entre eux se dressent de plus en plus contre les États-Unis. Bien évidemment, tous les pays ne sont pas nécessairement impliqués, mais en partie, cela les influence car ils voient le monde changer.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous, bon début de week-end.